Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Avant-dernière fin de semaine de novembre 2024, ici Alex Bergeron, et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bonne fin d'avant-midi sur les ondes de CFAQ 88.3 Sherbrooke et de Chiz 94.3 à Québec, vos radios universitaires préférées. Bon de vous retrouver cette semaine. Après, disons, des semaines particulièrement mouvementées dans la vie politique québécoise et canadienne. D'un côté, le comptable ministre des Kings de Los Angeles, Éric Gérard, nous confirmait un déficit pratiquement record au Québec, en annonçant également que des coupures, comme le dirait si bien Jack Meeting, allaient avoir lieu. Mais c'est pas vraiment des coupures, c'est du redressement fiscal, c'est du redressement de situation, etc., etc. Donc, au Québec, il y aura des resserrements budgétaires. Tout ce que vous voulez comme vocabulaire qui n'est pas associé aux coupures. Et en même temps qu'Éric Gérard faisait sa révision budgétaire de mi-mandat. Parce que, mine de rien, on est à peu près dans le milieu du mandat de la CAQ. Un petit peu dépassé, mais dans le milieu. Et de l'avis de plusieurs, normalement, ce genre de décision-là, de dire qu'on va couper, de dire qu'on va restreindre budgétairement, en tout cas, restreindre au niveau du budget de manière aussi drastique, on fait ça en début de mandat. Et quand on prend le pouvoir, les finances sont en moins bon état qu'on le pensait. Bon, là, ils n'ont pas cette raison-là qu'ils peuvent donner, étant donné qu'ils étaient au pouvoir dans le précédent gouvernement. Mais les prévisions sont moins bonnes, l'inflation est trop forte, c'est la faute à Trudeau. C'est toutes les raisons, normalement, sont bonnes. Mais là, on décide d'arriver à mi-mandat sur ce genre de restrictions-là. Il y a un montant aussi qui devrait être prélevé sur un certain groupe de retraite. Donc, le retour d'impôts l'année prochaine et en 2026 pour 2025 va être un petit peu moins gros pour ceux qui ont eu des retours dans les précédentes années parce que Québec va garder un petit peu d'argent, un petit peu plus d'argent que normalement. Certaines primes ou certains remboursements ne se feront plus. Et ça, ce genre de petit cadeau inversé, cadeau, pas vraiment, mais ce genre de décision-là, normalement, voilà, on les prend au début de mandat et non pas à la moitié lorsqu'on arrive près d'une campagne électorale. Donc, à cette fameuse question de gouvernement de comptable qu'est François Legault, Éric Gérard et feu Pierre Fitzgibbon. Ça s'annonce pas super bien. Christian Dubé, à un certain degré aussi. Fait que c'est pas positif, disons ça de même. Et pendant qu'Éric Gérard annonçait que le Québec continuait à l'être hors d'été, de l'autre côté, on avait une cuisine à air ouverte qui accueillait Justin Trudeau et Chrystia Freeland qui annonçaient un congé de taxes pour tous les Canadiens à partir de la mi-décembre. Parce qu'évidemment, il faut se donner le temps de voter, que ça soit mis en œuvre, etc., etc. Donc, pas avant la mi-décembre, pour ce petit congé de taxes, sur certains produits jugés essentiels, ainsi qu'un chèque de 250 $, non pas 250 000, mais 250 $, à plus de 18 millions de Canadiens. Le gouvernement Trudeau tente de combler le fossé qui s'est graduellement creusé entre son gouvernement et la classe moyenne, celle qui l'a pourtant porté au pouvoir en 2015, peut-on lire. L'insatisfaction de cette classe moyenne, sa colère même, a causé la défaite des démocrates au sud de la frontière. Au Canada, les libéraux pourraient subir un sort similaire. Je peux l'affirmer que les libéraux vont subir une défaite très similaire à la prochaine élection. Et c'est ça qui est un peu drôle. C'est que là, Doug Ford le fait en Ontario. François Legault l'a fait deux fois plus tôt qu'une, d'envoyer des chèques à tout le monde parce que les Québécois le méritent. Les Ontariens ont des congés sur la bière, en tout cas la bière cheap, et recevront un chèque juste avant les élections en Ontario. Mais là, Justin Trudeau qui décide d'envoyer lui aussi des chèques, ça ne passe pas. Ça, c'est acheter le vote. Ça, c'est inacceptable. Ça va coûter cher. Comme si les autres, ça n'avait pas coûté cher aussi. Ça, c'est un premier temps qui me faisait particulièrement rire cette semaine des analyses. « Ah, coudonc, Justin Trudeau, il essaie-tu d'acheter le vote? » Ils l'ont tout fait. Fait que tu sais, quand même que Justin Trudeau le fasse aussi aux gens qui ont travaillé, si je me souviens bien, c'est l'année dernière, donc sur le rapport de 2023. J'espère ne pas me tromper, mais il me semble que c'est sur le rapport de 2023, ceux qui ont travaillé et qui ont gagné moins de 150 000 $ recevront ce chèque de 250 $ au printemps prochain. Le congé de taxes, à lui, va s'inscrire sur des items à l'épicerie, sur l'alcool dans les restaurants, sur les jouets pour enfants, sur les sapins de Noël après le 14 décembre. C'est la blague. Fait que tu sais, ça va être sur une liste de certaines choses, ce qui sous-entend qu'il y a peut-être un groupe à quelque part au Parlement qui ont ouvert des circulaires pour cocher chaque item un par un qui allait avoir un truc ou qui allait avoir un congé de taxe pendant deux mois, soit de la mi-décembre à la mi-février. Au restaurant, certains types d'alcool vont être en congé de taxes. Tout plein de choses comme ça. Fait que pour les retardataires et ceux qui font des cadeaux de Noël très en retard, soit entre le 14 décembre et le 24 décembre, eux, ça va bien, ils vont avoir peut-être un petit congé de taxes sur certaines choses. Mais certaines choses jugées essentielles par le gouvernement. Je pense qu'il y a aussi des items pour enfants, des vêtements pour enfants, etc. Fait que, il y a certains trucs qui vont être pour vrai bénéfiques. Je pense aussi les poulets rôtis en épicerie. Normalement, on paye des taxes parce que le poulet est cuit. Mais si on prend un poulet froid, il n'y a pas de taxes étant donné que c'est de la bouffe. Ça redevient de la bouffe d'épicerie. Bon, ben là, techniquement, le poulet rôti chaud devrait être exempté de taxes lui aussi. Fait que certains endroits, c'est à 7 $ dans les magasins à grande surface que ça prend une carte, ben là, ils vont être 7 piastres pour vrai. Fait que là, ça va faire une vraie différence sur le prix, en tout cas. Ça m'étonnerait qu'il monte, mais ça incite quand même les gens à y aller davantage. Fait que Est-ce que ça fait réellement en sorte que les gens vont voter pour Justin Trudeau parce qu'ils vont recevoir un chèque au printemps et que peut-être des élections vont être déclenchées à peu près dans la même période? Non. Ça devrait être surprenant que ça prenait seulement un chèque de 250 $ pour qu'une personne se dise « Ah, finalement, je vais voter pour Justin Trudeau ». Ça peut peut-être en aider quelques-uns, mais est-ce que ça va créer une tendance à la renverse complètement avec le 15 à 20 points de retard sur les conservateurs? Évidemment que non. C'est sûr que non. Mais c'est sûr que ça paraît mieux quand on arrive en campagne électorale de dire « Regardez, avec nos bonnes décisions, on est capable de redonner à la population. » Non, non, non. C'est pas assez. C'est pas assez au sens où c'est pas un chèque de 250 $ qui revient à chaque fois. Surtout qu'à lui seul, le retour de 250 $ aux 18 millions de Canadiens devrait coûter à peu près 1 milliard et quelques. Et techniquement, on n'est plus censé avoir d'argent dans les coffres, mais là, on a trouvé 1 milliard et quelques à redonner à tout le monde. Et se priver de la TPS sur 2 mois, surtout en période des fêtes, oui, le mois de janvier, c'est le mois où on dépense le moins. Historiquement, janvier est celui et le mois où on dépense un peu le moins parce que justement, les fêtes ont fait gonfler les visas de beaucoup de ménages. Mais ça reste quand même des congés au restaurant, des congés sur des items qu'on achète normalement et qui va probablement faire une certaine différence, mais c'est se priver de 2-3 milliards aussi. Donc, en plus de vider les coffres d'un milliard et quelques de plus, on se prive de le récupérer en TPS pendant 2 mois. Et ça, pour les oppositions, on se verrait très mal de voter contre. En tout cas, pour l'instant, les conservateurs se gardent une porte de sortie parce que, selon Pierre Poilievre, il faut être 100% en désaccord avec tout ce que Justin Trudeau dit. Sauf que là, si les conservateurs décident de voter contre une motion qui redonne de l'argent aux Canadiens, quand soudainement les conservateurs se trouvent une conscience de vouloir être les défenseurs des employés syndiqués, les défenseurs de l'ouvrier Jean Tremblay qui travaille à Rio Tinto, au Saguenay, bien là, à un moment donné, il va falloir qu'ils soient conséquents. Donc, peut-être, est-ce que les conservateurs vont devoir voter en faveur des libéraux, ce qui va donner évidemment des points aux libéraux en disant « Regardez, même les conservateurs votent de notre bord, fait qu'on doit avoir des bonnes idées un moment donné. » Mais est-ce qu'on peut être contre la vertu? C'est une autre chose. Mais c'est ça qui est drôle, c'est qu'en ce moment, les conservateurs, ils disent « On va attendre de voir c'est quoi la proposition, puis si la proposition fait notre affaire, on va voter en faveur parce que... » Puis là, sortez n'importe quel slogan de Pierre Poilievre et la phrase est complétée. Mais à la base, ils sont supposés toujours être en désaccord. Il y a un article sur Pierre Poilievre qui est sorti cette semaine, on en reparlera après la pause, comme quoi c'est la ligne extrêmement stricte et dure de Pierre Poilievre qui doit être mise de l'avant. On se doit de respecter cette ligne-là, sinon on se fait mettre sur le banc de touche dans le camp conservateur. Et en même temps, venant de Pierre Poilievre, c'est pas l'affaire la plus surprenante qu'on entendra émaner des coulisses de gens qui commencent à être un petit peu fâchés des décisions de Pierre Poilievre. Mais encore là, est-ce que ce serait suffisant pour le faire tasser? Évidemment que non. Parce que comme on est littéralement à l'aube d'une campagne électorale au fédéral, ils n'auront pas le choix d'y aller avec Pierre Poilievre, de même qu'ils n'auront pas le choix d'y aller avec Justin Trudeau, parce qu'il est trop tard pour mettre quelqu'un d'autre en tant que chef pour la prochaine élection. Ceci dit, sur le vote, à part les conservateurs qui disent « on verra bien ce que les libéraux vont proposer », Jack Metzing est arrivé tout content en disant que c'était grâce à lui, rien de moins, que les libéraux allaient redonner de l'argent parce que pour le NPD, on veut mettre des congés permanent de la TPS sur plusieurs items qui se trouvent notamment en épicerie et qui sont taxés parce que justement, ce n'est pas de la nourriture simple. Parce qu'il faut le dire, à l'épicerie, la nourriture préparée, comme je le disais tantôt, comme elle est chaude, comme elle est préparée, ça revient à... ça rentre dans la catégorie restauration, donc il faut mettre une taxe là-dessus. D'où pourquoi, justement, le poulet rôti, les comptoirs de prêt-à-manger, lorsque c'est chaud, bien, tout ça, il y a des taxes. Ben non, c'est pas vrai. Même des sandwichs préparés. Tu sais, les petits sandwichs qu'on peut avoir dans des buffets, bon, ben ça, ce petit plateau de sandwich-là, il y a des taxes dessus parce que la bouffe a été préparée sur place. Donc, il y a une TPS à payer là-dessus. Bon, mais dans le cas du NPD, on voudrait enlever la taxe permanente sur ce genre d'items-là, des items pour enfants, bébés, les couches, ce genre de trucs-là. Bon, mais ça, c'est un projet du NPD de vouloir enlever les taxes pour toujours là-dessus, parce que ce sont des biens essentiels. Mais est-ce que c'est réellement grâce à Jack Meade si Justin Trudeau a pris cette décision-là? Évidemment que non. Mais en ce moment, comme... techniquement, ils ne sont plus des associés de facto. Ben, ça fait en sorte que Jack Meade va tenter de le plus possible de gratouiller le plus d'ombre, le plus d'éclairage possible. Parce que oui, dans son cas, les frais de dentiste remboursés, c'est en grande partie grâce au NPD, parce que c'était dans leur plateforme. Les libéraux ne l'avaient pas du tout. De se vanter d'avoir fait plier le gouvernement, de redonner de l'argent, c'est poussé fort. Mais bon, ce n'est que de bonne guerre. Et le bloc de mémoire disait que c'était électoraliste, mais sans plus. Il allait voter sûrement pour, parce que techniquement, c'est bon pour les Québécois. Donc, si c'est bon pour le Québec, le bloc est supposé voter pour. Faudra leur demander, c'est sûr et certain. Mais, en tout cas, faudra revérifier, parce que c'est sûr que Yves-François Blanchet a fait une déclaration là-dessus. Mais voilà. Donc, petit cadeau de Noël de Justin Trudeau, qui n'est pas du tout rapport avec le fait qu'une élection s'en vient. Pour plusieurs, c'est clientéliste, c'est électoraliste. Pour d'autres, c'est normal, vu que toutes les autres l'ont fait. Lui aussi va le faire. Mais essentiellement, ça reste toujours bien 250$ qui reviennent d'un poche de presque tout le monde. Fait qui va le refuser pour vrai? C'est sûr qu'à 150 000$ et moins de salaire annuel, ceux qui gagnent, bien sûr, plus que 75 000, entre 75 et 150 vont un peu rire de recevoir 250$, quoique ça leur fera un souper de plus dans leur prochaine croisière, mais sinon pour la classe réellement plus moyenne, si ça existe encore, ou la classe un peu plus faible, eux, 250$, évidemment, ça se prend bien, c'est une épicerie supplémentaire pour une semaine. Donc voilà, on s'arrête là-dessus au retour. Justement, ce document un peu choc et en même temps plus ou moins surprenant sur Pierre Poilievre et la ligne extrêmement dure que ses députés doivent adopter pour mettre en valeur Pierre Poilievre et les autres. Taisez-vous, vous écoutez le 88.3 CFAQ et Chiz 94.3. De retour au deuxième service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Comme je le disais, c'est sorti cette semaine du côté de Radio-Canada. Bon, c'est sûr que certains diront que Radio-Canada sont biaisés parce que Pierre Poilievre veut les faire fermer, mais bon. Ça reste quand même eux qui ont sorti la nouvelle en premier. Christian Noël, pour ne pas le nommer, qui a réussi à jaser avec quelques députés d'arrière-ban conservateurs, peut-être un petit peu... pas nécessairement fâché, mais un petit peu tanné de l'attitude de leur chef. Parce qu'en ce moment, Pierre Poilievre mène d'une poigne de fer, d'une main de fer, dépendamment de l'expression que vous aimez, et mène ses troupes à sa manière, et c'est sa manière seule qui compte et qui est importante. Au sens où... faut suivre la ligne de parti, ou du moins la ligne du chef du parti, et ne jamais en déroger, sinon on se fait mettre dans le coin avec un bonnet d'âne sur la tête et on dit « t'es pas bon, t'es pas bon, t'es pas bon ». Je blague, mais essentiellement, depuis qu'il est chef, Pierre Poilievre exige que ses députés d'arrière-ban ne le mettent pas, lui, dans l'embarras, ni même le parti en tant que tel. On sent une différence, raconte une source de l'entourage. Les députés ne prennent pas trop leurs aises. Ils font attention. Au sein des troupes conservatrices, certaines personnes commencent à trouver que l'atmosphère est lourde et que les députés n'ont plus assez de marge de manœuvre. Certains élus ont l'impression de venir au caucus pour se faire dire quoi faire et quoi penser par le chef. Parfois, il écoute les suggestions, mais souvent, sa décision est déjà prise. C'est souvent une conversation à sens unique. Selon deux sources qui complètent l'info, ce n'est pas l'idéal, mais ça marche, affirme l'un d'entre eux. Les conservateurs ont, malgré tout, une avance dans les sondages. Quand on mène dans les sondages, c'est facile de garder la discipline au sein du caucus, mais s'il y a un effondrement dans les sondages, là, on verra. C'est donc pour dire, si soudainement, les conservateurs se mettaient à mal aller, par exemple, ou si il y avait peut-être une petite grogne qui s'installait au pays, là, on réviserait peut-être la manière de faire. Mais pour l'instant, c'est « dites ce que le chef dit et tout va bien aller ». À titre d'exemple, il y avait eu... en fait, Pierre Poilievre avait été mis à la porte du Parlement un peu plus tôt cette session-ci pour avoir traité les politiques et Justin Trudeau de « wacko ». Wacko, qu'on avait eu beaucoup de difficultés à traduire en français, mais qu'on est allé avec cinglé. C'est public cinglé de l'opposition et d'un premier ministre cinglé. Wacko Prime Minister. Pierre Poilievre avait été expulsé de la Chambre. Ah, c'était en avril, voilà. Je pensais que c'était cet automne, mais non. C'était en avril pour avoir utilisé ce mot et refuser de retirer ses propos. Il avait eu comme, c'est pas cinq chances. Il avait énormément de chances pour se rattraper, mais à chaque fois, soit il en rajoutait une couche ou il ignorait complètement ce que le chef parlementaire, pas le chef parlementaire, mais le président de la Chambre disait là, vous allez retirer vos propos. Parfait. Ben à la place, je vais dire que ses propos, ben que le premier ministre est un imbécile. Yeah! Dans les trucs conservatrices. Non, là, je vais vous demander de retirer ses propos. Ben d'abord, je vais continuer de dire que c'est un wacko. Parfait, vous êtes dehors, Pierre Poilievre. Après cet incident, ce terme avant l'incident, c'est-à-dire avant que Pierre Poilievre, le chef de l'opposition, utilise wacko. Le terme n'avait été employé qu'à deux autres reprises en 18 mois. Donc, depuis le début de cette session de gouvernance-là, il avait été utilisé seulement deux fois. Et ce n'était pas dans l'idée de dire que Justin Trudeau est wacko. Donc, chez les députés conservateurs, ceux qui voulaient faire des points et bien paraître auprès de Pierre Poilievre ont utilisé wacko à une centaine de reprises depuis que Pierre Poilievre a été mis dehors de la Chambre. Ceux qui répètent les slogans sont récompensés. Ils reçoivent des félicitations en public devant tout le caucus pour avoir été de bons cheerleaders. Ils obtiennent, grâce à ça, plus de temps de parole en Chambre durant les périodes de questions, toujours selon cette source-là. Donc, c'est pas pour rien que quand, par exemple, Jean-René Dufort à Infoman fait le montage des députés conservateurs qui disent tous juste inflation, la juste inflation, wacko. Le gouvernement est indigne de sa fonction. T'sais, ces slogans-là qu'ils répètent tous et chacun, c'est pour être dans les bonnes grâces de Pierre Poilievre. Donc, c'est pas juste on se passe le mot et on s'assure que le slogan rentre comme faux. Non. C'est une directive même du cabinet de Pierre Poilievre qui exige que ses députés le fassent. Entre autres, parce que la répétition amène à ce que justement ça rentre dans l'imaginaire, mais ça fait surtout en sorte qu'ils obtiennent des privilèges. Les députés sont surveillés. Si jamais ils osaient aller parler à un journaliste, il y a quelqu'un de l'équipe de Pierre Poilievre qui va écouter les moindres mots de ce qui vont être dit, qui vont tout être apportés à Pierre Poilievre pour faire attention à ce qu'il ne déroge pas de la ligne de parti. Et sinon, ben, on les met en pénitence. Remarquez comment, juste au Québec, on a Pierre Paulus, on a Luc Berthold, mais où est Gérard Deltel? Gérard Deltel, qui normalement est très loquace, qu'on voit normalement beaucoup, là, depuis un certain temps, semble pas mal discret. T'sais, on le voit beaucoup moins. Est-ce qu'il aurait dérogé de la ligne obligatoire de Pierre Poilievre? On ne le sait pas. Mais est-ce que c'est ça, être sur la touche avec Pierre Poilievre? C'est pas impossible. On se souviendra, dans ses dernières vidéos, il avait été braillé que les fours à pizza allaient être interdits en déformant les propos d'une politique de Justin Trudeau, que l'environnement voulait enquêter sur les fours à bois, etc., pour la pollution. Puis là, Gérald Detel avait fait une vidéo en sortant d'un... soit un magasin de bagel ou un magasin de pizza, puis... cette bonne nourriture que Justin Trudeau veut nous enlever! C'est drôle, on le voit plus depuis ce temps-là. Fait que, tu sais, est-ce que c'était pour mettre dans l'embarras son chef? La question se pose quand même. Fait que, et en plus, de toute façon, si je me souviens bien, Gérard Deltel non plus n'était pas du bord de Pierre Poilievre, était du bord à Jean Charest lors de la campagne à la chefferie. Fait que c'est sûr que ça peut peut-être ne pas aider non plus à sa cause. Donc, discipline qui est obligatoire chez tous les députés. Sinon, on les met au pas et on les... on les humilie, mais en tout cas, on les nomme lorsqu'on est en caucus. À preuve, dernièrement, le caucus conservateur a sorti les noms de plusieurs députés parce qu'ils avaient osé demander de l'aide financière pour de la construction de logements au gouvernement libéral. Et comme je le disais avant la pause, il faut toujours être 100% contre ce que Justin Trudeau fait, ce qui fait en sorte que les députés conservateurs, si par exemple on annonce la construction d'un logement, d'un HLM dans une circonscription conservatrice, il y aura le député libéral de la région qui sera présent, mais on encourage les députés conservateurs à ne pas se présenter. Tout ça par partisanerie et pour obliger à ce qu'on ne soit pas qu'on soit toujours en désaccord avec le gouvernement libéral, ces noms-là, ces gens-là qui auraient fait des demandes pour justement avoir de l'aide à de la construction de logements, par exemple, dans la circonscription, se sont tous fait lister à même par les conservateurs de peur, peut-être, entre guillemets, que la liste sorte dans les médias ou que les libéraux disent « Regardez, tel député nous ont fait des demandes. » À la place, les conservateurs les ont sortis sur la place publique pour dire « Regardez, eux autres, ils dérogent au fait qu'on ne doit pas, on doit tous haïr les libéraux. » C'est rendu à une autre étape, mais c'est ça. Donc, 17 députés conservateurs qui avaient plaidé auprès du gouvernement pour que les villes de leur circonscription obtiennent leur part d'un fonds fédéral sur le logement ont été rabroués publiquement par le bureau du chef dans une note distribuée aux médias sans leur consentement. Pierre Poilievre a forcé ses députés à renier leurs engagements auprès des maires. Donc, la douzaine de députés conservateurs qui avaient fait des demandes ont été obligés de rappeler chaque maire de leur circonscription pour dire « Ouais, finalement, l'argent, on ne la demandera pas. » Parce que c'est une idée libérale. C'est tellement niaiseux. Mais bon, partisanerie oblige, les libéraux sont les méchants dans l'histoire et ont détruit le Canada au grand complet. Rien de moins. On s'arrête là-dessus. Au retour, la suite du deuxième service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Revenons au Québec. En ce moment, Nordvolt, ça va pas super bien, comme d'habitude. Mais là, du côté de la maison mère, on veut se placer à l'abri de ses créanciers. Donc, est-ce que le gouvernement de François Legault a mis 800 millions dans le vide? C'est pas complètement impossible. On assure, en tout cas, que la filière nord-américaine devrait être correcte, mais qu'en Finlande, c'est là que ça va mal. Donc, est-ce qu'on a misé sur le mauvais cheval? En Suède, ça s'enligne pour ça. Parce que le PDG suédois a quitté son poste. Il s'est rétracté, ou en tout cas, il est parti pour sa mauvaise gestion. La compagnie date de 2015 seulement. Et là, nous, on est allé mettre tous nos œufs dans le même panier, littéralement. Et ça fait justement en sorte que on commence à avoir un petit peu peur. Est-ce que c'est finalement un gros éléphant blanc qui servira à rien? Ça s'enligne pour ça. Même de la rencontre de François Legault avec les journalistes qui lui ont posé la question. Il a lui-même gardé le silence pour ne pas se mettre dans l'embarras, chose qu'il fait rarement, mais que là, il était obligé de faire parce que justement, est-ce qu'on a misé sur le cheval? Est-ce que le pari n'était pas le bon? Parce qu'il dit que quand on décide d'être gambler, ben on peut parier sur des trucs comme Nordvolt, mais comme plusieurs, ben pariez pas avec l'argent de la population grand complet, d'abord, M. Legault, si vous n'êtes pas si certain. C'est donc le bon moment pour moi de passer le relais à la prochaine génération de dirigeants, a déclaré Peter Carlson au reste des membres du conseil d'administration de Nordvolt. Que Peter Carlson, le PDG, qui restera membre du conseil d'administration de Nordvolt et conseiller de la direction, même s'il n'est plus PDG. Voilà. La demande de placement sous le chapitre 11 permet à l'entreprise de se réorganiser, de développer ses activités tout en respectant ses engagements envers ses clients, ses fournisseurs et, en fin de compte, se positionner sur le long terme. Ça reste quand même protection de la faillite, que ça s'appelle. La directrice financière Pia Alton-Forsell et le directeur des opérations, Mathias Arlett, assure que la direction du groupe, avec le soutien des responsables de reconstruction, se fera bien avec son placement sous la protection de la loi américaine sur les faillites. Nordvolt espère achever sa restructuration d'ici la fin du premier trimestre de 2025. Donc, d'ici le printemps l'année prochaine, ça devrait être revenu dans le bon ordre. Mais encore là, qu'est-ce qui arrive de leur projet d'expansion? On dit que c'est correct, mais est-ce qu'on peut les croire? C'est une autre chose. Donc, Nordvolt, bien sûr, ça va pas bien. Selon la presse suédoise, Nordvolt aurait une dette de 5,84 milliards de dollars pour seulement, dans son petit compte en banque, avoir 30 millions. Ce qui est problématique, bien sûr, Nordvolt avait annoncé en fin septembre la suppression de 1600 emplois sur 6500 en Suède, toujours, et le gel du développement de son principal site de production à Skellefteå, dans le nord de la Suède, pour s'adapter à la situation financière tendue. Mais là, semble-t-il que l'Amérique du Nord, c'est un tout autre chapitre. Donc, ça veut dire qu'on est correct, mais François Legault avait quand même la face longue cette semaine à propos de ça. Donc, au moins, ça enlevait un peu de feu sous Arun Boisy de Québec solidaire qui, comment dire, c'est pas aidé dans les dernières semaines, mais il faut dire aussi que le lynchage que lui impose le Parti québécois aussi depuis trop longtemps commence à se tasser aussi. Ça, on peut leur donner maintenant que la mise à jour économique d'Éric Gérard a été déposée hier. Ben, enfin, Pascal Bérubé avait un autre os à gruger. Fait qu'il a fait une espèce de petite vidéo de « Voici la CAQ de crédit et toutes les dépenses sous-grenues de la CAQ ». Fait qu'au moins, ça donne un congé à Arun. Mais essentiellement, c'est pour essayer de récapituler tout ce qui s'est dit. Arun Boisy, dans un souper, en compagnie de d'autres personnes du Maghreb, de d'autres personnes de musulmans, disait qu'à l'Assemblée nationale, il voyait le racisme à tous les jours, en disant qu'il y avait des politiques racistes qui se développaient pour que l'autre soit mis à part et comme par hasard, cet autre-là était arabe et musulman. Évidemment, ces propos-là n'ont pas passé. Ces vidéos-là avaient été mises en ligne sur sa propre page Facebook. Donc, c'est sûr que ça n'a pas fait l'affaire de personne. Plus tard, il s'est remis les pieds dans les plats en disant que Christian Dubé, ministre de la Santé, et Lionel Carman, aux services sociaux, avaient eu des propos borderline racistes dans leur déclaration en disant que tout est de la faute des immigrants. Là-dessus, il n'y a pas que Lionel Carman et Christian Dubé qui ont pu être sur la ligne de dire que tout est de la faute des immigrants. François Legault l'a dit. Jean Boulay, l'a dit en campagne électorale que 80% des immigrants qui arrivaient à Montréal n'apprenaient pas l'anglais et étaient sur le BS. Fait qu'il y a eu des déclarations pires. Dans le cas de Christian Dubé et de Lionel Carman, oui, ils ont parlé d'immigration qui mettait la pression et sur le système de santé et sur le DPJ, mais est-ce que c'était 100% tout de leur faute si le système n'allait pas bien? Dans les faits, bien sûr que non, les deux systèmes étaient déjà mal en point, mais c'est sûr que de dire que parce qu'il y a des gens qui arrivent, qui ont besoin de plus de soins de santé, il n'y a pas assez d'infirmières, fait que ça fait en sorte que les deux souches n'ont pas de service, c'est sûr que on peut comprendre ce qu'Haroun Boisy vous dit sur le fond de la chose, sur le vrai, vrai fond de ce qu'Haroun Boisy dénonçait, que de dire que c'est de la faute des immigrants si le système public québécois ne va pas bien, c'est sûr que ça, c'est complètement grossier et grotesque de vouloir toujours mettre la faute sur l'immigrant, mais de pointer du doigt des gens en disant « lui a fait ci, lui a fait ça », quand techniquement, sur les tapes, sur les procès-verbaux, on n'a pas telles quelles des phrases comme quoi ces personnes-là ont dit des propos racistes. Là, il s'est empêtré dans ses propres histoires. Et ça a fait en sorte qu'il s'est excusé sur Twitter en disant que, bon, je voulais pas pointer du doigt personnellement ces deux-là. Comprenez que c'était pas le but de la manœuvre. Mais là, se rajoutent Pascal Bérubé et Paul Saint-Pierre Plamondon qui exigent la tête d'Haroun Boisy depuis, en tout cas, jusqu'à la mise à jour économique. Et Paul Saint-Pierre Plamondon est allé du point Goodwin 2024 en disant « Ben, c'est parce que QS, c'est tout des woke. Depuis 10 ans, QS, c'est des woke. » Malheureusement, quel beau lapsus. Paul Saint-Pierre Plamondon est tombé dans cette rhétorique-là à la Mathieu Bock-Côté de dire « Si ça va mal à cause de QS, c'est à cause des woke. » Malheureusement, Paul Saint-Pierre Plamondon est tombé là-dedans et de l'avis de plusieurs, moi le premier, il a perdu énormément de points là-dessus en invoquant la technique Mathieu Bock-Côté, Richard Martineau, Sophie Durocher, la technique Cube Radio, de dire que c'est toute la faute des woke si tout va mal. Et pourquoi est-ce que le Parti québécois vargerait autant à grands coups dans Québec solidaire qui stagne dans les sondages alors que le PQ trône au sommet? Donc, pourquoi donner des coups de pied d'un côte de QS quand ils sont déjà en train de faire du surplace et que le PQ est loin devant, outre que de gagner de la sympathie avec une population qui croit que c'est tout et de la faute des woke pour faire du gain politique? On y reviendra parce qu'il faut faire une courte pause, mais comme je le disais, malheureusement, Paul Saint-Pierre Plamondon tombe dans cette rhétorique-là pour juste continuer de varger sur Haroun Boisy. Et j'ai l'impression que peut-être l'aile un peu plus progressiste du PQ ne sera pas particulièrement contente. Mais si on est de la branche PQ, c'est qu'on critique le chef ou qu'on critique les politiques, on se fait mettre dehors des exécutifs. Parlons-en à un gars qui aurait supposément dit qu'une entrevue n'avait pas eu lieu. En tout cas, il y avait un papier qui était sorti sur le fait que ce gars-là avait déjà dit que le PQ s'était rétracté d'une affaire. Puis, oh, il coule de l'information dans les médias, faut le suspendre, faut le supprimer, etc. Parce qu'il a parlé en mal du chef. Donc, je ne me ferai pas d'amis au PQ après la pause sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Bon, comme je le disais, en milieu de semaine, Paul Saint-Pierre Plamondon trouve Haroun Boisy et le Québec solidaire et Québec solidaire beaucoup trop woke pour la politique québécoise, et ce, depuis 10 ans. Ce que Paul a dit, le wokisme est un mouvement à proprement dit antidémocratique, ce qui refuse le dialogue et qui sert de l'intimidation et de la désinformation pour imposer son agenda. Et les gens sont tannés, moi le premier, s'incarner par Québec solidaire dans l'ensemble de son œuvre depuis 10 ans. Le wokisme, c'est l'introduction de plusieurs concepts de tout acabit, comme le racisme systémique, le privilège blanc, l'écriture inclusive, les safe spaces et la culture de la cancellation. Ça, c'est la définition à Paul Saint-Pierre Plamondon du wokisme, quand le wokisme, dans sa véritable définition, c'est de dénoncer les injustices. Là, Paul est rendu dans le monde imaginaire de Mathieu Bock-Côté qui dit à la télé française, à LCN, à TVA, à Cube Radio, dans sa propre émission, lorsqu'il est invité, partout où il va, qu'il n'a plus le droit de rien dire. Donc, sur ses 45 000 tribunes, il dit qu'il n'a plus le droit de rien dire à cause des woke. Ben, Paul Saint-Pierre Plamondon tombe exactement dans ce piège-là. Et le truc le plus drôle dans ses déclarations cette semaine, c'est qu'il dit « L'usage de déformation des propos, de la désinformation pour créer un procès d'intention, puis l'utilisation de mots racistes, intolérants et phobes pour contraindre l'adversaire au mutisme et finalement la victimisation sont les clés pour être un bon « woke ». Mais ironiquement, c'est que Pierre Poilievre, j'arrête pas de l'appeler Pierre Poilievre, c'est pas fin, mais en tout cas, Paul Saint-Pierre Plamondon tombe exactement dans le piège qu'il dénonce en faisant de la désinformation à propos de Québec solidaire pour créer un procès d'intention pour dire que Québec solidaire est méchant et en se posant lui-même, Paul Saint-Pierre, en tant que victime des méchants QS. Mais ça, c'est ce qu'il reproche également à QS de faire. Petit problème ici, tu sais. Dénoncer les procès d'intention en faisant un procès d'intention à Québec solidaire comme quoi ils veulent canceller le PQ, je sais pas, canceller l'Assemblée nationale parce qu'il y a des projets de loi qui sont un peu racistes. Je sais pas. Fait que voilà, Paul Saint-Pierre est tombé dans ce piège-là. Haroun Bouazizi était l'exemple type à pouvoir être capable de varger dessus parce qu'il ne s'est pas clairement excusé. Il devrait être gêné. Il ne devrait pas avoir le droit de continuer à être député. À quel point il s'est déguisé pour vouloir sa tête, qu'il démissionne pour faire une élection partielle dans Maurice Richard, me semble, sa circonscription pour peut-être espérer avoir un nouveau député péquiste parce qu'en ce moment, sauf erreur, dans Maurice Richard, ça pourrait tomber aux mains du PQ. C'est pas gentil de prêter des intentions à Paul Saint-Pierre Plamondon, mais c'est le message qu'on dirait qu'il envoie, que maintenant, tout va être woke pour les affaires qu'il aime pas, exactement comme dans les médias de Québécois et comme Mathieu Bock-Côté en tête de file le fait quotidiennement et à la télé française il est jugé comme étant de l'extrême droite parce qu'il dit que les méchants woke empêchent les Français de souche de pouvoir s'exprimer librement tout comme en étant sur 36 plateformes différentes. Fait qu'est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon va réellement tomber dans le piège pour seulement récupérer le vote à la CAQ des anciens péquistes qui ont voté pour François Legault et qui hésiteraient à retourner au PQ parce que c'est vrai que les maudits woke nous empêchent de tout dire quand cette définition-là veut rien dire. Paul Saint-Pierre Plamondon a été obligé de trouver une définition au mot woke pour tenter de faire en sorte que le Québec solidaire tombait dans ces critères-là qui, toujours, selon lui, c'est pas scientifiquement prouvé que le but premier de Québec solidaire, c'est de dire que tout le monde est raciste et que tout le monde fait mal sa job. C'est un piège dangereux dans lequel, malheureusement, Paul Saint-Pierre est tombé cette semaine et ne fera pas de gain avec ça. Il n'y aura pas de gain à justement commencer à dire « Ah, il y a des bons Québécois et il y a des mauvais Québécois ». Où on se situe après ça pour être un bon Québécois si on est d'accord avec le fond de pensée d'Haroun Bouazizi qui dit que les lois qui doivent empêcher les femmes de porter le voile sous prétexte que c'est les symboles religieux ou tout simplement de dire que les immigrants sont sur le BS et ne travaillent pas, si on n'a pas le droit de dire que ça, c'est raciste, où s'en va la limite? Parce que c'est pour le bien de la communauté. Non. À un moment donné, il faut faire attention aux mots qui sont prononcés. On est pile dans ce débat-là de faire attention aux mots qu'on emploie. Haroun Boisy n'a jamais dit que 100% des députés de l'Assemblée nationale étaient tous des racistes. Il disait que certaines lois n'avaient pas de sens et qu'on faisait exprès pour pointer du doigt des gens qui font exprès pour ne pas être dans le bien commun québécois. Sur le fond, il a raison. De la manière qu'il l'a fait, évidemment, c'était inacceptable. Est-ce qu'il mérite le lynchage public que lui a imposé Paul Saint-Pierre Plamondon, Pascal Bérubé, Marc Tanguay, Marois Risky à un certain niveau? Ses propos étaient inacceptables, oui. Mais est-ce qu'il méritait de se faire varger dessus pendant une semaine de temps, même après qu'il ait écrit des excuses, même si elles n'ont pas été verbales? Je pense qu'à un moment donné, il va falloir en revenir. Mais là, de dire que c'est de la faute de Québec solidaire qui est woke depuis 10 ans, alors que le terme woke a été popularisé il y en a à peine 5-6, et que c'était une toute autre définition et non pas celle que Paul a inventée cette semaine, on commence à jouer un jeu dangereux. On ne fera pas de gain avec ce genre de truc-là. À preuve, multiples mèmes sur Paul Saint-Pierre sont sortis cette semaine pour en rire. Et c'est là-dessus que ça va se terminer pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition sur les ondes de CFAQ et sur les ondes de CHIZ. À la semaine prochaine. Salut.